Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les amis, alors aujourd'hui un épisode avec François de Breuer, un véritable plaisir d'avoir rencontré cet artiste complet. J'en avais entendu parler en fait sur une interview sur France Bleu, ça a attisé ma curiosité et je lui ai écrit sur Instagram et de fil en aiguille on en est venu à enregistrer le podcast ensemble et vraiment c'était un plaisir. N'hésitez pas à aller le voir, il joue son spectacle les premiers et 2 juin 2023 à 20h au Théâtre 13. Je vous mets le lien de réservation dans la description ainsi que tous les liens pour le retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que moi-même. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Et je vous souhaite une excellente écoute. Je vous dis à très bientôt les amis. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui François de Breuer. Salut François, comment tu vas?
Salut Sofiane, ça va bien?
Bon, ça fait plaisir de te voir, merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec joie, avec grand plaisir. Écoute,
plaisir partagé. Et donc, toi, tu as une carrière, toi tu es un humoriste en fait qui vient des pièces plus classiques, tout ça, des répertoires classiques. Ouais. Et aujourd'hui, tu es en solo. Donc là, c'est deux aventures complètement différentes, mais je pense que tu dois avoir vraiment des anecdotes magnifiques. Voilà, je me trompe pas sur ton parcours, c'est bien ça.
Moi, je suis un humoriste qui s'assume pas du tout comme humoriste dans la mesure où en fait mon obsession première, c'est pas de faire rire. Mon obsession première, c'est d'incarner des personnages et c'est de raconter des histoires. Mais très vite après, l'obsession qui arrive très vite après, c'est celle de faire rire. Donc, tu vois, en fait, moi, je suis arrivé au théâtre par les humoristes. C'est vraiment eux qui m'ont inspiré, qui m'ont donné envie d'être acteur. Mais j'ai l'impression, si je m'appelle humoriste, j'ai l'impression de tromper un peu le public.
Ah, c'est le syndrome de l'imposteur, un peu.
Ben, c'est pas tout à fait ça. C'est parce que, en fait, j'ai l'impression que de les tromper sur la marchandise. C'est-à-dire que, pour moi, les humoristes, c'est des gens qui pensent du matin au soir comment je vais faire rire mon public ce soir. Moi, je fonctionne pas comme ça. Je passe mon temps à récolter des situations et des idées de personnages. Et après, je les amalgame dans une histoire que je raconte.
D'accord. Tu vois. En fait, ce que tu vises d'abord, c'est la justesse, l'authenticité du moment que tu vas délivrer aux gens. Et ensuite, tu veux pimper ça, en fait, avec du rire au maximum. Mais l'intention première, c'est d'être juste, je pense.
Ouais, c'est de je dirais que c'est de raconter une histoire.
D'accord.
L'intention première, c'est ça. C'est plus ça qui m'obsède. Et c'est pour ça que je peux aussi me contenter d'écrire par moments. Ça peut aussi me combler, tu vois.
D'accord. Mais je trouve que c'est intéressant parce que nous, donc moi, je fais du stand-up et tout. Et nous, les stand-uppers, c'est vrai que l'obsession, c'est le rire. Ça, c'est clair.
Ouais.
Mais je pense que quelqu'un qui va voir ton spectacle, par exemple, même s'il n'y a pas des rires toutes les 5 secondes, 10 secondes, il va quand même apprécier parce que ce qu'on cherche en réalité quand on va voir un spectacle, j'ai l'impression, c'est l'évasion. Et toi, tu permets aux gens de s'évader. Si en plus il y a du rire par-dessus, c'est parfait, mais tu leur fais vivre des émotions, tout ça, tu les rentres dans ton histoire. Je pense qu'il y en a même qui ont du mal à en sortir au final, tu vois. Quand le spectacle s'arrête, ils disent ah oui, zut, c'est vrai, c'était un spectacle et tout. Moi, ça me fait ça quand je vais au cinéma.
Ouais,
quand je suis tellement plongé dans un film, il y a des moments pendant le film où je dis oula, mais je suis au ciné en fait.
Tu sais, j'ai beaucoup de spectateurs qui, après mes spectacles, me disent j'ai eu l'impression de voir un film.
Génial.
J'ai eu l'impression de plonger dans un film.
Je pense que c'est un beau compliment, ça.
Ouais, c'est un beau compliment. Et puis ça me renseigne aussi sur la forme de. Voilà, sur ce que j'écris, toi, la forme d'écriture.
C'est bien. Et puis les gens vont préférer un spectacle comme le tien, par exemple, ou un spectacle même d'humour, même qui s'appellerait un spectacle d'humour. Toi, on va dire, tu vas pas dire spectacle d'humour, tu vas dire seul en scène, par exemple.
Ouais.
Seul en scène, c'est ça qui permet de vraiment mélanger un petit peu toutes les émotions. Tu dis aux gens, je vais vous faire vivre un moment. Et ils te font confiance et tu leur fais vivre un moment. Et moi, je sais qu'il y a des gens qui viennent voir un spectacle où c'est punchline sur punchline, genre vraiment toutes les 10 secondes, tu rigoles, t'as mal au ventre tellement tu rigoles. Mais à la fin, quand tu leur demandes ça parlait de quoi, ils savent pas.
Ouais,
alors qu'un spectacle comme le tien, je suis sûr que les gens sont capables de refaire toute l'histoire.
Ouais. Je pense que c'est ça que je mets le plus en valeur et qui est premier. Mais après, très vite après, j'ai envie de faire rire. Et c'est marrant parce que le deuxième spectacle, tu vois... la première galère que je pourrais te raconter, c'est la création de mon deuxième spectacle.
Oui.
Parce que, en gros, donc, j'ai joué un premier spectacle qui s'appelait La Loi des Prodiges, qui a très bien marché, qui vraiment était une histoire assez loin de moi. Puis j'en ai écrit un deuxième, j'ai passé 3 ans à l'écrire, qui s'appelait Les Performants. Et en fait, 6 semaines avant la première, j'ai complètement changé de spectacle. J'ai réécrit un autre spectacle. Là, le spectacle que je joue en ce moment, qui s'appelle Rencontre avec Inilluminé, je l'ai écrit en 6 semaines la version longue, mais j'avais déjà beaucoup de matière, j'avais déjà des improvisations, tout ça. Donc ça, première galère, je conseille à personne.
Ouais. Changer de spectacle 6 semaines avant, waouh.
Voilà, c'était à la fois une galère hyper excitante et voilà, et un peu inquiétante. Mais je me suis rendu compte, si tu veux, que dans le deuxième spectacle, j'ai quand même beaucoup plus privilégié une forme de légèreté qu'il y avait moins dans le premier. Et j'ai l'impression que si je me lance dans un prochain solo, j'ai l'impression que je vais essayer d'être encore plus efficace sur le plan humoristique. Tu vois, il y a quand même une trajectoire qui va vers quelque chose qui s'assume du désir de faire rire, tu vois, dans la légèreté. Moi, je viens vraiment du théâtre de répertoire, du théâtre classique. Donc, du coup, quand je monte sur scène, même si je suis seul devant un public qui vient pour rire, je peux pas faire comme si j'avais pas ce bagage-là, tu vois. Et cette passion pour Shakespeare, pour Molière, pour tous les auteurs que j'ai étudiés au conservatoire, qui m'ont passionné, tu vois, quand je les ai joués. Voilà, c'est pour ça que je vais pas dans des comédie clubs aussi, parce que même si je trouve ça hyper intéressant, mais c'est pas une forme avec laquelle je me retrouve complètement.
D'accord, mais ça doit être un peu dur, j'imagine, sur un spectacle comme le tien, de couper, parce que malheureusement, le plus grand ennemi de l'humoriste dans le comedy club, c'est la montre, c'est le chronomètre, tu vois.
Parce que
t'arrives et on te dit, par exemple, tu as 4 minutes. En 4 minutes, je pense que c'est impossible de découvrir ton univers.
Je pense que c'est possible, mais il faut vraiment réécrire quelque chose. C'est-à-dire que je peux pas... Ah. Par exemple, une fois, Michel Boujna, qui m'a vachement soutenu sur le premier spectacle et qui avait adoré, voulait que je fasse Ramatuelle avec un plateau de plusieurs humoristes. Il m'avait demandé de faire 20 minutes. Et je me suis vraiment posé la question, la loi des prodiges, est-ce que je peux extraire 20 minutes? Et en fait, c'était impossible. Donc, il aurait fallu, mais le temps ne me le permettait pas, il aurait fallu que j'écrive un truc de 20 minutes. J'aurais pu écrire, entre guillemets, un petit spectacle de 20 minutes.
D'accord.
Tu vois, un court-métrage, quoi.
Mais j'aurais pensé que 20 minutes, ça aurait pu être suffisant, justement. Tu vois, je me suis dit, à partir de 15-20 minutes, on a peut-être le temps de prendre un extrait, tu sais. Et souvent, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils présentent un extrait, et à la fin, ils disent, si vous voulez connaître la suite, mon spectacle, tous les lundis, machin, tu vois. Mais là, 20 minutes...
Non, mais c'est... je te dis ça en même temps. J'ai fait la première partie de La Cigale de mon pote Mehdi Jahadi, et en fait, c'était une demi-heure. Donc, j'ai réussi à extraire. Mais c'était de rencontre avec Nulliminé. Il y a une très longue scène qui se passe dans une soirée. Et en fait, j'ai vraiment extrait que cette scène-là.
D'accord. Et c'est une partie vraiment humoristique et tout. C'est...
Ouais. C'est très drôle. Et c'est vraiment une grande scène.
D'accord.
Donc, ça s'extrait bien.
Oui, donc ça va. C'est comme si on prenait une scène d'un acte, d'une pièce de théâtre ou quoi. Voilà. Et les gens vont se dire, c'est pas grave, même si on n'a pas le background, tu vois, c'est pas grave, on va quand même rentrer dedans. Et à la fin, c'est, oh, je veux la suite. Et du coup, ça les attire pour venir voir ton spectacle. Ouais. Mais je comprends. C'est vrai que cette difficulté-là, c'est ce qui se passe avec les gens qui n'ont pas, justement, des trucs punch. Et c'est normal, hein. Même moi, j'ai pas ça. Mais c'est toujours une difficulté d'arriver à extraire 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, tu vois, pour être assez efficace. Parce que les gens, même si le spectacle est passionnant, si tu leur montres pas en si peu de temps l'étendue de ton talent et de la puissance de ce spectacle, ils vont se dire, oh, c'était pas dingue. Tu vois, c'est ça le problème. Ça rend pas justice. Je pense que les comedy clubs, c'est vrai, ne rendent pas justice aux pièces, aux spectacles, aux seuls en scène, en fait, tout simplement. Et c'est pas grave, quelque part, c'est pas grave, parce que là-bas, c'est plus de la performance.
Ouais.
C'est plus, il faut balancer. Il faut que les gens en prennent plein la gueule pendant 5 minutes. Et, Et je connais des humoristes aussi, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un condensé. C'est-à-dire qu'ils prennent leur spectacle, qui est pourtant un one-man show, one-woman show et tout, mais ils prennent les meilleures vannes et ils les agglomèrent en un 5 minutes. Presque parfait, parce que ce sont les meilleurs.
Ouais.
Et après, quand tu vas voir le spectacle, tu vois que c'est très dilué. On appelle ça des escrocs. Non, je plaisante, évidemment, mais c'est vrai que y a des gens qui ont cette tendance-là. Et en même temps, je les comprends. Parce qu'ils se disent, j'ai envie de leur donner envie de venir voir le spectacle en entier, je vais leur faire la bande-annonce. C'est comme les bandes-annonces de films. Combien de fois on s'est fait avoir? La bande-annonce, tu la regardes, tu te dis, waouh! Et en fait, il y avait tout dans la bande-annonce. Il n'y avait pas besoin d'aller voir le film en entier. T'as déjà tout vu dedans, tu vois. Enfin, voilà. Et donc, alors, avec ce changement, vraiment, ce twist à 6 semaines de la première, comment ça s'est passé alors, la première?
La première était assez dingue parce que, si tu veux, quand tu écris, tu le sais, parfois tu omets la période où tu dois apprendre. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu l'as écrit que tu le connais, ton texte. Donc, il faut à un moment donné faire cet exercice un peu schizophrène. Il y a l'auteur et puis il y a l'acteur. D'un coup, l'acteur doit prendre le relais et interpréter ce que l'auteur a écrit. Qui n'est pas toujours excellent, améliorable, tout ça. Bon, bref, comme j'ai écrit très vite, j'arrive à quelques jours de la première et je ne connais pas bien mon texte. Donc, si tu veux, j'ai fait un truc que j'ai fait pour la première fois de ma vie, c'est-à-dire que j'ai vraiment sélectionné les scènes qu'il fallait que j'apprenne très fermement et certaines scènes, je me suis dit, ça, je peux les apprendre un peu mollement parce que je pourrais m'en sortir en semi-impro.
Oui.
Et j'ai demandé à mon co-auteur Jean-Luc Gaget de rester au premier rang pendant les 4 premières. pour me souffler le texte au cas où. Je lui ai dit, écoute, si je suis dans la merde, j'improvise. Et si vraiment je m'en sors pas avec mon improvisation, je te demande de me souffler et j'assume, je dis Jean-Luc, j'en suis où en faisant une blague.
Ah d'accord, ok, je pensais que t'allais faire un truc du style, ouais. Si jamais je place le mot hirondelle, tu sais que je suis en galère là, il faut m'aider.
Hirondelle. Pourquoi il insiste comme ça sur le motif des hirondelles, on sait pas.
Oh, il y en a qui l'auraient analysé, genre, en fait c'est un message de préserver la nature, de voilà, c'est un artiste engagé, c'est magnifique.
Ça aurait dû être le titre.
Ah là.
Mais en fait, ouais, et j'ai jamais eu besoin de.
Ah, c'est ça que j'avais demandé.
De faire appel à lui parce que, en fait, déjà, je le connaissais mieux que ce que je pensais.
Et c'est l'adrénaline,
en fait. Et puis surtout, en fait, ouais, l'adrénaline. Et puis quand t'as écrit à partir d'improvisation, c'est pas. Tu vois, moi, j'ai joué des textes parfois formellement très complexes, des vers, des choses comme ça. Quand tu te plantes, quand la mémoire te lâche sur des vers, c'est une horreur. Parce que pour inventer un vers, mon gars, c'est. Il y a des acteurs qui arrivent à le faire, c'est très, très étonnant. Mais quand c'est de la prose comme ça et puis que tu l'as improvisé, ben c'est quand même beaucoup plus facile de dire un mot pour un autre, de reprendre au milieu de la scène.
Voilà. Ça reste naturel, quoi.
Ouais, il y a un truc qui... Et puis les codes que je travaille, comme j'écris à partir d'improvisation, je retrouve un peu, tu vois, le chemin de mon improvisation. Et en général, quand je suis au bord de rajouter des choses, que je fais très rarement, mais quand je suis comme ça au bord de rajouter des choses parce que je me sens bien... et que je retrouve un peu l'énergie de l'improvisation première, bah c'est aussi là que ça fonctionne bien. Donc c'est un vertige de pas connaître hyper bien son texte, et en même temps c'est un vertige assez grisant, quoi.
Parce que ça te laisse une espèce de marge de manœuvre et tout, et puis surtout le public n'a pas ton texte dans les mains.
Ça, donc, c'est vrai, heureusement.
Bah oui, sinon il dirait, attends, tu t'es trompé là. T'as parlé trois fois d'hirondelle là.
Ce qui arrive parfois dans le théâtre classique.
Oui, alors ça, par contre, c'est
des vers, évidemment. Il faut me lire ça. Parfois, il y a des gens qui ont le folio dans les yeux.
Alors, est-ce que les gens sont là en mode, on va voir s'il va se planter, ou est-ce que c'est juste pour le plaisir?
Je sais pas, c'est le côté grisant tu vois, la littérature là qui s'incarne. Et donc, il y a des gens qui aiment bien voir le texte et qui connaissent les vers très connus, par exemple. Moi, j'ai joué Les Femmes Savantes, il y a des vers très, très connus.
Ouais.
Du grec, hein, c'est du grec, ma sœur, tout ça. Et il y a des gens qui connaissent, donc ils le susurrent avant que tu le dises, tu vois.
Ça cache un peu le truc, non?
Ouais, c'est assez chiant.
T'as l'impression de jouer devant 400 metteurs en scène.
C'est assez chiant.
C'est compliqué.
Tu sais, tu laisses ton temps avant de lancer ta réplique. Là, il y a quelqu'un qui le dit.
Ils te font une Paul Mirabel, en fait. Est-ce que tu connais l'histoire avec Paul Mirabel?
Non, je connais pas.
Tu connais son travail?
Ouais, je connais, bien sûr.
T'as vu son style? Son style, ouais, c'est qu'il balance une phrase, il attend, il installe un truc et ensuite il balance la suite.
Ouais.
Il a fait l'Olympia et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont ultra fans et ils balançaient les répliques avant lui.
Oh, la cata.
C'est une horreur parce que
c'est du sabotage.
Ah mais voilà. Mais le pire, c'est que c'est du sabotage, même pas volontaire.
Bah oui, c'est de l'amour.
C'est de l'amour,
c'est de l'amour sabotant.
C'est ça. Moi, j'ai eu ça. Je me suis fait saboter amoureusement, tu vois. j'avais deux personnes dans la salle qui étaient adorables. C'était des amis et ils adoraient ce que je faisais et tout. Et je les remercie encore pour leur soutien. Mais ils balançaient. Moi, il y a un moment, j'attendais un petit peu avant de balancer la chute et ils la balançaient avant moi. Et c'était vraiment pas pour me saboter, hein. C'était vraiment genre, on aime tellement ça qu'on connaît la suite et tout. Oui, d'accord, mais les autres ne la connaissent pas.
C'est comme les chanteurs populaires, les gens qui chantent en même temps que les chansons qu'ils connaissent par cœur. Et ça doit être agaçant au bout d'un moment, tu vois.
C'est pour ça qu'ils ont trouvé le à vous. Ouais. Tu vois, genre, allez, à vous, allez, c'est bon, me saoulez pas.
Allez-y,
c'est vous maintenant, c'est bon. C'est bon, je peux rechanter maintenant? C'est bon? Oh, punaise.
C'est quand même magique.
Allez, les lacs du Connemara. Allez, c'est parti. Comment il doit galérer Sardou quand il chante les lacs du Connemara? Le monde entier la connaît. Tu vois, donc. Voilà. Mais j'avoue que c'est grisant de se laisser cette zone de danger comme ça. Et je pense que c'est la même chose qu'en stand-up. Tu sais, en stand-up, nous, on écrit des textes et tout. Par exemple, moi, cet après-midi, justement, je flippe parce que je vais en tester un nouveau.
Ah ouais.
Que j'ai juste écrit. Et comme t'as dit exactement, je me suis reconnu là-dedans parce que je le connais pas encore.
Ouais.
Donc, tout à l'heure, à 16h, je dois jouer et je vais le tester. Donc, grosse pression, mais c'est pas grave. C'est un plaisir et tout. Mmh. Et je pense que ça doit être la même chose. C'est-à-dire que ce que t'as écrit, c'est une chose. Tu l'apprends, tu le balances et tout comme ça. Mais une fois que tu as une espèce d'aisance qui fait que tu vas improviser, le public réagira plus fort à ton improvisation qu'à ton texte. Est-ce que ça te fait la même chose à toi?
Oui, c'est vrai. Et au point que le premier spectacle, La Loi des Prodiges, il était assez long. Le premier filage durait 2h20.
Waouh!
Et j'ai vachement coupé parce que je créais à Avignon à 22h30. La programmatrice m'a dit, écoute, c'est pas possible, tu vas pas fermer le théâtre à minuit et demi, donc il faut que tu coupes. Ça a été vraiment la période la plus difficile de l'écriture, toute la dernière partie des coupes. Donc je suis arrivé à 1h50 et puis finalement j'ai recoupé 2 ans plus tard pour arriver à 1h35-40. Le spectacle était très long et en fait, quand j'improvisais, je culpabilisais vachement. En même temps, je prenais du plaisir et je culpabilisais vachement parce que je me disais, je leur fais déjà subir un spectacle d'une heure cinquante. Si en plus je fais 3 minutes d'impro, c'est pas possible quoi. Les gens ils vont. Et puis c'est vrai qu'il y avait ce phénomène-là où parfois, comme il y avait l'énergie de l'improvisation, on sent que c'est inédit machin. Les gens me parlaient que de ça en sortant. Et je leur disais, je vous ai construit une histoire qui dure 1h50, avec de la dramaturgie, avec plein de personnages, tout ça. Et vous me parlez que du moment où ouais. J'ai eu un fou rire.
Bande d'ingrats.
Donc il y avait c'était une tentation. Et là, rencontre avec une illuminée est moins long, il dure 1h20. Et du coup, quand il y a des improvisations, c'est pas toujours, ben j'en profite plus et je culpabilise pas, tu vois, parce que c'est pas trop long.
Oui, ça va, 1h20, après si tu montes jusqu'à 1h30, 40, ça va,
ouais, ça va,
ça reste correct. Mais j'avoue que ouais, ce problème-là, moi, mon spectacle, il était monté jusqu'à 1h40 à un moment, et je le trouvais long. Après, les gens, alors, jamais personne, ça fait 10 ans que je fais ça, jamais personne est venu me voir en me disant, bon après,
c'est long.
Ouais, voilà, genre c'est long, vraiment. Par contre, les gens viennent souvent me dire, on voit pas le temps passer. Ça me fait plaisir.
Bah oui.
Mais sur les 1h40, je trouvais que ça manquait un peu de peps. Donc j'ai enlevé 3 sketchs, j'en ai rajouté un seul. En fait, il y en a un seul qui n'était pas dans le spectacle d'avant. Il y en a 3 qui ont viré, mais qui sont dans le DVD. J'avais tourné un DVD en 2016 et tout, donc je le propose à la fin du spectacle et tout. Mais j'avoue que ça m'a permis de faire un spectacle d'une heure et quart, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus pointu. Moi, j'en suis plus satisfait.
Ouais.
Il y a peut-être des gens qui ont vu l'ancienne version qui ont dit « Ah, oh, c'est dommage, tu parles plus de ça et tout. » Mais ouais, on doit faire des choix.
Mais en fait, il y a un dicton qui dit, un dicton de scénariste, qui dit quand tu commences à couper des bonnes idées, des idées que t'aimes, c'est très bon signe.
Ah,
tu vois,
d'accord.
Parce qu'en fait, quand t'arrives au stade où tu te sépares d'idées qui te plaisent moyennement, bon, c'est normal. C'est-à-dire que, mais quand tu t'es obligé de te dire de choisir entre deux idées qui sont très bonnes, c'est que là, tu vas vraiment choisir, sélectionner une matière. Enfin, je pense que la qualité réside dans la quantité. Dédicace à mon pote Thibaut Évrard qui m'a dit ça un jour, et qui est le co-auteur de Verino. C'est une phrase juste, la qualité réside dans la quantité. C'est-à-dire qu'il faut écrire beaucoup pour finalement choisir des choses, être sûr de choisir. Par exemple, quand moi j'écris une histoire et que je sais pas comment ça va évoluer, j'invente 5 possibilités. Je me dis, le personnage, il va lui arriver ça, ou ça, ou ça, ou ça. Et dans les 5, je choisis la meilleure.
D'accord.
Et j'ai une sensation de, tu vois, d'avoir plus travaillé que si j'avais pris la première idée qui me vient en tête.
D'accord. Voilà, oui, en effet.
Je pense que d'arriver à ce stade qui est très dur de couper des trucs que t'aimes, c'est très bon signe.
Oui, c'est sûr que si tu te sépares d'un truc excellent pour un truc encore meilleur,
voilà,
c'est très bien. Mais ça doit être frustrant quand même, quelque part.
C'est horrible.
De se dire, en fait, c'était très bon et tout, et je vais le jeter à la poubelle.
En fait, il faut se dire que tu le jettes pas à la poubelle, il faut dire que tu le mets dans une sorte de cimetière d'écriture, que tu pourras déterrer. Tu vois, pour d'autres spectacles, c'est exactement ce qui s'est passé pour Rencontre avec une illuminée. Les gens me disent, j'ai écrit ça en 6 semaines. Je dis, mais en fait, si j'avais pas écrit La Loi des Prodiges, si j'avais pas improvisé pendant des mois, si j'avais pas écrit pendant 3 ans notre spectacle, j'aurais pas pu l'écrire aussi vite. Je l'ai écrit aussi vite parce que j'avais dans mon cimetière.
D'accord.
C'est pas très.
Donc c'est
un peu glauque.
Voilà. C'est plus Rencontre avec une zombie. On est d'accord. C'est pas.
Ok. Mais j'avais, disons, dans mon dossier, dans mon chutier d'écriture, j'avais plein de scènes qui étaient là, que je pouvais réutiliser, qu'on ressurgit.
Oui, on recycle très souvent.
On recycle.
Moi, ça m'arrive très souvent d'avoir une idée de blague, par exemple, je la mets sur scène et par exemple, je me rends compte que finalement, elle n'est pas faite pour la scène, je me la garde pour une vidéo ou je me la garde pour un truc écrit, tu vois, une blague sur Twitter ou je sais pas, je dis une bêtise. Mais oui, on est capable de recycler nos idées. Et ça fait du bien parce que c'est tellement, alors ceux qui créent, toi le premier tu le sais, ceux qui créent, c'est tellement une souffrance de trouver des choses, d'inventer, que quand on trouve quelque chose de bien, on en est tellement content, on dit c'est nos bébés, tu vois, c'est nos enfants.
Ouais.
Et tu parlais tout à l'heure de se débarrasser de nos meilleures idées et tout, ça me rappelle un petit peu ce qu'ils disent, tu sais, genre le fameux kill your darlings.
Oui.
C'est une expression qui veut dire, en gros, il faut savoir se séparer, entre guillemets, même des bonnes choses. C'est-à-dire, s'il faut couper, bah tu couperas même quelque chose que t'aimes, malheureusement, tu dois savoir te séparer. Il y en a qui disent aussi kill your babies, un truc comme ça, tu vois, ce qui est très glauque aussi.
C'est pire en pire.
Ce qui est très glauque aussi, tu vois.
Ouais.
Ça fait mal parce que tu te dis, ah, oh, mais je l'ai vu cette blague, je l'ai vu grandir et elle est magnifique, maintenant je suis obligé de m'en séparer, ah, ça fait mal. Mais quelque part, tu sers ton propos, et si cette blague-là n'a plus de place dans ton propos actuel,
je comprends.
Et donc alors, dans cette nouvelle aventure, donc dans les premières dates, tu m'as dit que tu t'es pas servi une seule fois de l'hirondelle, quoi. Jamais.
Non, j'ai même assez peu improvisé, en fait.
Ouais.
le texte revenait assez, assez bien. Et c'est assez marrant parce que j'étais quand même dans un état de fébrilité. Et tout le monde me disait, c'est fou ce que t'es détendu. J'ai toujours... Parce qu'en fait, je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire que vraiment, je crois que la détente, c'est mon énergie de jeu. Même si je suis en improvisation, je pense que j'aurais l'air relativement détendu sur une scène. Il y a des gens qui ont l'air nerveux alors qu'ils jouent leur spectacle depuis 200 fois, mais c'est leur énergie de jeu. Donc voilà, bon, c'est un détail. Mais ouais, non, j'ai pas eu besoin de me servir d'hirondelle.
Et d'accord, ok. C'est beau parce que vraiment, ouais, on essaye de donner l'image, enfin, qu'on veut renvoyer aux gens. Et moi, ça m'arrive très souvent que les gens viennent me voir et me disent, ah, franchement, t'avais l'air, bien. Alors moi, c'est une énergie assez speed et tout. Tu vois comment je parle déjà. Ouais. Moi, je suis assez speed sur scène, mais c'est mon énergie. Je suis très extraverti et tout. Et en fait, les gens viennent me voir après, par exemple. Ils vont pas me dire, par exemple, t'étais calme ou quoi, mais ils vont me dire, waouh, ouais, franchement, t'as géré de A à Z. Alors que 5 minutes avant, je vivais un calvaire.
Ouais,
tu vois, j'étais sur scène, ça se passait pas comme je l'avais prévu, et du coup, dans ma tête, je voulais crever, je voulais vraiment que ça s'arrête, mais Dieu merci, maintenant, avec l'expérience, j'arrive à donner le change, et à faire croire que je passe un bon moment, tu vois, parce que mon but, c'est surtout pas que les gens se disent, oh non, regarde, il galère et tout, non, je veux qu'ils se disent, tiens, il est dans son élément, il est bien et tout, même si ça a été dur pour moi, parce que je fais ça pour deux choses, premièrement, pour pas que les gens se sentent mal, c'est pas mon but quand même, et deuxièmement, pour que j'ai une chance de les rattraper, parce qu'à terme, après, tu les rattrapes, si vraiment ils sont avec toi, genre, ils t'ont pas suivi sur une partie, ils te suivront sur l'autre, mais il faut que tu gardes ton énergie et ta happy face, quoi, tu vois, voilà, et donc, c'est vrai que c'est un exercice périlleux, mais les gens qui viennent te voir comme ça, c'est satisfaisant parce que tu te dis, ah, au moins, ça s'est pas vu que je voulais crever, quoi, tu vois, c'est ça le truc. Quand tu bides, par exemple. Ouais. Tiens, par exemple, les bides. Alors, toi, dans un spectacle qui n'est pas dédié 100% à l'humour, est-ce que tu as vécu des moments de bide vraiment?
Bah, bien sûr. Non, mais quand j'ai pensé à, j'ai réfléchi un peu aux galères, en fait, j'en ai plein. Mais vraiment, j'en ai des quantités astronomiques. En fait, en fouillant, t'en trouves plein. Mais, j'ai fait une petite liste et tout ça, mais je me suis un peu concentré quand même sur la période où je tourne la loi des prodiges. Donc, après avoir passé une dizaine d'années à tourner des pièces de répertoire, souvent dans des lieux assez confortables, subventionnés, grands, où t'es bien accueilli. Voilà, je crée ce spectacle et là, d'un coup, c'est ton spectacle. T'as envie à tout prix qu'il existe. Donc, t'es prêt à accepter n'importe quelle date de tournée. Tu connais ce truc-là?
Je connais.
Et donc là, ça devient intéressant parce que c'est là que se logent les grosses galères que par la suite, tu reproduis pas ou tu dis bon. Mais là, j'en ai un paquet. J'ai des bides, j'ai des pannes techniques, j'ai des incompréhensions avec des lieux. Après, je les ai même titrés. Comme ça, on peut aussi aller au gré de ta curiosité.
Je te suis avec grand plaisir. Vas-y, dis-le.
Je te les lis et puis allez. Après, on va au gré de ta curiosité. Jouer sous une patinoire à ton nom. Premier titre. Deuxième. Jouer pendant le concert de Kenji Girac à Tahiti.
Ok, d'accord. Non, en tout cas, c'est original.
Jouer sous un chapiteau pendant l'orage.
Ok.
Plus classique. Panne de régie à Avignon.
Ah, ça, c'est presque le quotidien.
Super classique. La première à Avignon. Il y en a une qui est titrée par le nom de la salle. Mais bon, il y a plein de salles qui s'appellent comme ça, donc il n'y aura pas de problème. La salle de l'horloge. Tout un programme.
D'accord.
Les deux projos à la gare.
Ok.
Jouer avec la gastro au Petit Saint-Martin. Bon, celle-là, tout est dans le titre.
Évidemment.
Bon, après, j'en ai mis des kilos, mais représentation cauchemardesque à Béziers. Alors, Béziers, pareil, il y a plusieurs salles, donc j'en crée pas un théâtre. Mais là, c'est une des pires représentations de ma vie. Ça, je peux peut-être commencer par ça.
Allez, allons-y.
Te dire que dans le genre bide, horrible. La pire représentation de ma vie. La représentation... où en sortant, je me suis dit, plus jamais ça t'arrivera. Si jamais tu te retrouves avec un public hostile comme ça, tu t'arrêtes. Tu dis, mesdames, messieurs, il y a dans la salle des gens que ça n'intéresse pas à mon spectacle, il y a des gens qui suivent, je vais m'arrêter une minute, je vais aller boire un coup, et quand je vais revenir, les gens que ça n'intéresse pas, n'hésitez pas à partir. Je me suis dit, la prochaine fois que ça m'arrive, je fais ça. Parce que moi, je fais pas du stand-up, donc c'est vrai que je suis pas les yeux dans les yeux avec les spectateurs. Donc le spectateur hostile... un peu chiant, je peux faire comme si je ne l'entendais pas.
Tu joues avec un quatrième mur.
Ouais, je joue quand même relativement, moins dans le nouveau, là, où je passe beaucoup de temps les yeux dans les yeux avec le spectateur, mais dans La Loi des Prodiges, j'avais quand même vraiment un gros quatrième mur. Et donc, à Béziers, je suis programmé par un directeur qui est un homme de théâtre, qui connaît mon travail, qui me programme 3 dates et machin, mais il se trouve qu'entre-temps, ça a changé de direction, ce lieu.
Ah.
Et là, je me retrouve avec un nouveau directeur et son adjointe, qui ne savent pas du tout qui je suis, qui savent pas ce que je fais et qui se disent un solo. Pour le coup, tu vois, c'est cette histoire d'amalgame avec aussi l'humoriste. C'est là où je veux pas tromper les gens. Et ils se disent, on va le mettre. On a une soirée où on invite tous les acteurs financiers de la région.
Mm-hmm.
on va tous les inviter à cette soirée, ils vont boire un coup, un pot, machin, un peu ambiance comité d'entreprise, voilà, invité, c'est les ça. Pires publics,
c'est
on
exactement
le sait.
Ça.
Et même pire que comité d'entreprise, tu vois, c'est vraiment les gens, ils en ont rien à foutre, ils sont là pour faire des affaires, pour parler business, et on me dit, voilà, la salle est pleine, tout ça, ça va être une bonne ambiance, bon, ils seront un peu ivres, tout ça. Le spectacle commence. Deux heures en retard. Ouais. Deux heures en retard.
Parce qu'ils mangeaient, ils buvaient.
Ils mangeaient, ils buvaient, ils faisaient leurs affaires. Ils n'avaient rien à foutre du spectacle. Ils commencent 2 heures en retard et ils s'installent vraiment parcimonieusement comme ça dans la salle. 3, 4, continuent à parler avec des coupes, avec les portables et tout. Je me dis, mais comment je peux commencer mon spectacle comme ça? La loi des prodiges, c'est une histoire dans laquelle il faut rentrer. C'est l'histoire d'un anti-héros. C'est l'histoire d'un homme politique qui veut se débarrasser des artistes. Donc, il faut quand même rentrer dans mon histoire. Et je démarre, c'est l'horreur. Ça parle de partout, c'est machin, tout ça. Catastrophe. Et pendant tout le spectacle, je sors un petit peu des personnages. Parfois en personnage, je dis « Attention, hein, les portables, je vous vois hein, !» Tu vois, en personnage, de temps en temps, j'essaie de leur dire un truc pour qu'ils étaient les portables.
C'était un appel à l'aide, quoi.
C'était un appel à l'aide. Il y a des allées-venues, ça. Et là, je me dis, en fait, la seule chose qui m'a tenu, c'est que j'avais mis 2 invites à un copain que je vois jamais, qui vit dans le coin.
Tu voulais pas gâcher la soirée.
J'avais mis 2 invites et je le voyais au 4e rang. Il était tout sourire et je voulais qu'il joue. Et je pensais à lui, puis je pensais aux gens qui suivaient l'histoire.
Ben oui.
Mais ça a été un aller-venu permanent, des conversations. Représentation horrible. Représentation, tu sors, t'as l'impression d'avoir été roué de coups.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire? Et je me suis dit, ça plus jamais. Maintenant, je m'arrêterai.
Ouais, mais t'as totalement raison. Et j'allais te dire ça parce que moi, j'ai vécu ça. Bon, je raconterai ça dans un autre épisode, hein, ce serait trop long sinon. Mais j'ai vécu ça il y a quelques semaines. J'ai joué donc le pire spectacle de ma vie. Et je te jure. Et je suis sorti avec une sensation de douleur. Mais physique.
Bien sûr.
Alors que ça m'était jamais arrivé. Des bites, j'en ai pris. Et j'en prendrai encore. Mais là, c'était physique. Ouais. Parce qu'en fait, ça avait duré tout le spectacle presque. C'était 1h15 de... Non, j'ai fait 1h cette fois-ci. 1h de... Bah, pour te dire, j'ai même pas fait le dernier sketch. Tu vois?
Ah ouais, ouais.
Parce que les gens le connaissent pas, donc c'est pas grave. J'ai dit franchement, et vous m'avez tellement rien donné ce soir que voilà, je me prends pas la tête, je fais pas le dernier.
Ah, tu l'as dit quand même. Mais j'ai... Tu l'as formulé. Non.
Ah non, pas
non,
du tout.
Non, pensé.
Non, j'ai pas osé.
Ah, ouais.
Non, je suis trop gentil, je peux pas
faire ça.
Mais dans ma tête, c'était bande de bâtards. Vous méritez pas la fin. Mais après, eux, ils ont rien vu. Je leur ai terminé le spectacle d'une manière normale et ils ont applaudi. Et merci beaucoup, au revoir, et je suis parti, tu vois. Mais donc, ouais, j'ai senti une douleur physique. Est-ce que toi, tu sentais quelque chose de physique aussi ou pas?
Bien sûr. Oh. En fait, en sortant, t'es vraiment mal, ouais, tu te sens mal. Je dis, cette sensation d'avoir pris des coups.
Oh.
C'est... Alors, évidemment, t'as pas des bleus, mais t'as des bleus à l'âme, quoi, pour faire le poète.
C'est ça.
Non, mais t'es vraiment blessé, quoi. Uh-huh. T'es vraiment blessé et les gens se rendent pas compte. Et ce qui m'a encore plus blessé, je vais dire, c'est que. Après, l'adjointe de la direction m'a dit « Mais vous n'avez pas su plaire au public. »
Waouh !
Je veux dire, un spectacle, quel qu'il soit, a besoin d'un public, entre guillemets, qui se conditionne.
Réceptif. Oui.
Réceptif et qui se conditionne.
Oui.
C'est aussi pour ça que moi, je ne veux pas mentir au public et je ne leur dis pas « Je suis un humoriste et vous allez rire du début à la fin non-stop. » Parce que quand un spectateur paye une place, c'est problématique quand il la paye pas d'ailleurs, parce que justement il a pas manifesté son désir de voir le spectacle. Voilà, que ça passe par l'argent, ça peut passer par autre chose, mais souvent le fait de payer une place, c'est une manifestation du désir. En fait, il se conditionne pas à recevoir un spectacle.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on a besoin de ça. Et qu'une directrice de théâtre comprenne pas ça, alors que je venais de jouer 200 fois le spectacle, et que ça s'était jamais aussi mal passé, et que ça s'était toujours plutôt bien passé, j'étais fou de rage, tu vois.
Bah oui.
Et on a... Enfin, bon, ça a été toute une bagarre et tout. On a écrit des mails et machin. Bon, bref. L'équipe, toute l'équipe technique du lieu était de mon côté. Se disait, c'est un scandale.
Moi, je rêve de voir le spectacle de cette dame. Je rêve de voir comment elle réussit à séduire le public à chaque fois. Je rêve de voir ça. On a besoin de gens comme ça qui vont nous apprendre le métier.
Ouais,
tu vois. Quelle horreur.
C'était horrible. C'était d'une méchanceté.
Mais les gens parlent. Les gens ne t'écoutent pas. Les gens font n'importe quoi. Évidemment qu'ils vont pas accrocher. C'est normal. Ils se sont pas mis dedans.
Ouais.
C'est comme si, j'en sais rien, moi, c'est comme si tu si t'allais au cinéma et tu faisais du karting pendant le film.
Ben ouais.
Bah, tu vas rien comprendre au film, je suis désolé.
L'image est quand même étrange, mais.
Ouais, j'avoue, j'avoue. Bah, c'est que j'ai envie de faire du karting en ce moment, je te cache pas.
Tu sais, le cinéma où on est allé en bagnole.
Le drive.
Le drive.
Ouais, mais tu sais que pendant la pandémie, au Canada, ils ont fait ça, surtout à Montréal et tout, pour pas laisser tomber les humoristes, ils leur ont fait faire des sessions en drive.
Ah, ouais.
C'est-à-dire que les humoristes étaient sur scène et les gens étaient dans leur voiture et ils klaxonnaient pour dire quand c'était drôle. Je crois que c'était appel, il y avait appel de phare pour un truc, genre les rires et klaxon pour applaudissements.
C'est pas vrai.
Je te jure que c'est ça. Je te jure que ça s'est passé.
Ah, ça devait être marrant.
C'était les drives, ouais, les cinémas en extérieur, quoi.
Ah, ouais,
c'est dingue. Hein.
Incroyable.
Et en même temps, il y avait que ça à ce moment-là. On pouvait pas jouer ensemble, tu vois. Enfin bref. Et donc ouais, bah écoute, on ne salue pas cette dame qui a eu zéro tact et zéro conscience artistique.
Ouais.
Quand tu programmes des artistes comme ça, tu dois te douter que c'est pas tous les soirs la fiesta, quoi.
C'est exactement ça. C'est des gens qui avaient pas de conscience artistique.
Oui.
C'est des gens qui venaient de l'événementiel, qui voilà, je sais pas pourquoi
ils voulaient de la performance. Voilà. Et donc, alors, juste une question, c'est-à-dire que ça, ça s'est passé le premier, deuxième ou troisième soir?
C'était le premier soir.
D'accord. Et du coup, les deux autres soirs, est-ce que tu as pu leur montrer?
C'était mieux.
Ouais. Et elle n'est pas venue
les,
te voir
les deux autres soirs, c'était des gens qui venaient voir un spectacle,
qui voulaient
l'avaient choisi.
Voilà.
Donc non, c'était pas la soirée dédiée aux acteurs financiers de la région.
D'accord.
Non, on le sait l'un comme l'autre, les comités d'entreprise. Prévenons les gens qui ne le savent pas encore, les potentiels humoristes qui ne le savent pas encore. Les pires publics, on est d'accord, c'est les comités d'entreprise.
Ouais, très souvent.
Parce que
là, parce qu'en fait, ils ont déjà leur... Voilà, ils payent pas.
Ils choisissent pas.
Voilà, ça, on leur impose, donc c'est une prise d'otage, hein, ce qu'on appelle une prise d'otage. Derrière, on fait l'erreur souvent de vendre ça comme une surprise. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous allez voir un spectacle d'humour, c'est une surprise, on ne dit pas qui. Donc dans leur tête, ils pensent Gad Elmaleh, Elie Semoun, je ne sais pas, moi, Jamel Debbouze. Et ils trouvent quelqu'un qui n'imaginait pas, donc forcément, ils sont un peu déçus. Et puis en plus, ils viennent avec les copains, donc ça parle. Eux, ils veulent que tu parles que d'eux, en fait, tu vois. Ils voudraient que tu leur fasses un spectacle personnalisé. Mais nous, on ne peut pas. Nous, on fait le spectacle qu'on fait devant monsieur et madame tout le monde, tu vois, normal, quoi.
Quand je travaillais à EDF... Ah, c'est génial.
Et voilà, là, oui.
Ah non,
là, il y a une référence. Là, il y a quelque chose. Ben oui, voilà. Mais non, eux, ils veulent pas que tu leur parles de toi. Ils veulent que tu leur parles d'eux. En fait, j'ai l'impression. Moi, j'ai joué en chicha aussi. Tu vois, les chicha, c'est un monde très spécial. J'ai l'impression que le comité d'entreprise, c'est la version smart d'une chicha. Tu vois, parce que les mecs veulent que tu parles que d'eux. Si tu sors,
c'est intéressant comme
je t'assure que je te jure, t'as déjà été dans une chicha, t'as vu un peu l'ambiance peut-être.
Oui, bien sûr.
C'est une ambiance très très street et tout. Et après, il y en a des moins street que d'autres évidemment. Mais quand t'arrives là-bas, si tu fais ton texte, même si tes blagues cartonnent partout, t'as très peu de chances de les faire passer là-bas. Par contre, si t'arrives et tu commences à vanner les gens dans le public, là, ça rigole parce qu'ils veulent que tu leur parles d'eux en fait.
Ouais.
Ils veulent pas que tu leur présentes ton travail, ils veulent voir ce que tu vas faire d'eux. Ils t'offrent genre, voilà la salle, allez vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire sur nous?
C'est marrant parce que ça me parle cette expression et je pense que même quand tu joues un auteur classique très renommé, je pense que aussi les gens ils viennent au théâtre pour qu'on leur parle d'eux. Tu vois, même si tu joues Shakespeare, même Molière, enfin j'aime bien cette idée.
Ouais.
Ça me parle.
Mais c'est-à-dire ils attendent que tu sortes un peu du texte,
non,
peut-être.
Enfin, je veux dire que
ils veulent trouver une similitude dans l'histoire avec leur vie.
En fait, les gens se retrouvent pas dans, sauf si c'est comme, sauf comité d'entreprise, sauf invitation surprise et tout ça qui est en effet pas une bonne manière de conditionner un public. Je pense que en effet les gens viennent, enfin tu vois, ils viennent pour qu'on leur parle d'eux au théâtre.
D'accord, ils veulent s'identifier en fait.
Ouais, ils veulent s'identifier.
D'accord, je comprends. Ok, mais écoute, en tout cas, force à toi. Hein. Et donc, heureusement que les deux autres spectacles se sont bien passés. Ouais. Au moins, le pire, ça aurait été que ça se passe le troisième soir. Genre, tu ne peux pas te rattraper derrière.
Ah ouais.
Ça aurait été dur.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, oui, dans les titres que tu m'as donnés, tu m'as vendu du rêve. J'ai éclaté de rire au premier déjà, tu vois.
Jouer sous une patinoire.
Oh, mais c'est génial. Celui-là, jouer sous une patinoire. C'est pas sur une patinoire.
Non, c'est sous une patinoire.
Qu'est-ce que c'est?
Sous une patinoire aurait été un peu.
Qu'est-ce que c'est?
Dans toutes les tournées que j'ai acceptées, il y a souvent, dans le monde du théâtre public, il y a souvent la décentralisation de la décentralisation. C'est-à-dire les petites villes où il y a des salles. Autour d'une ville qui a un CDN, un centre dramatique, machin. Donc, à Thonon, ils font un truc qui s'appelle Chemin de Traverse. Donc, tu joues dans la salle et puis ensuite, après, tu te balades dans les petites villes à côté. Voilà. Il y en a une qui s'appelle Morzine, ou si tu veux, Morzine, c'est un fief du hockey sur glace. Et le théâtre, il est sous la patinoire. Et c'est une espèce de théâtre qui est un peu une grande salle de conférence immense, tu vois, avec des chaises à perte de vue. Évidemment, moi, j'avais 100 résas, quoi. Donc déjà bizarre, tu sais qu'il va y avoir 100 personnes agglutinées devant dans une salle immense. On fait les raccords l'après-midi. j'avais pas tilté que c'était sous la patinoire. Et j'entends les schlick, schlack, schlack, les boum, les trucs, les cris, les crosses et tout ça. Et je me dis, mais c'est quoi ça? Et on me dit, ah, mais c'est l'entraînement des petits, là, parce qu'il y a hockey. Je fais, ah, wow. Et puis en blaguant, je dis, heureusement qu'ils sont pas là ce soir. Et là, la directrice du lieu de bien blême et fait, bah, ce soir, c'est les pros.
Ce soir, c'est-à-dire que là tu as juste pros. L'échantillon. Ce soir, t'auras le vrai bazar au-dessus de toi et tout. Oh là.
Ce soir, c'est les pros et il y a match.
Ouh, yeah, yeah,
et si tu veux, ça veut dire que non seulement ça va jouer au hockey sur la patinoire, ça veut dire, mais la patinoire va être remplie de gens et de fans. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Ça fait déjà un boucan du diable, les gamins qui s'entraînent. C'est pas possible. Je dis, faut qu'on trouve un truc. Je commence à tenter un truc. Absurde. On les invite au spectacle, que toute l'équipe de hockey, mais ils ont rien à foutre, c'est toute l'équipe de hockey. Et j'hésite à. C'est une des rares fois dans ma vie où j'hésite à jouer. Je dis, ça va pas être possible. Les gens vont pas du tout pouvoir rentrer dans mon histoire. Finalement, je me dis, allez, je la joue. Allez, on a foi.
Show must go on.
Show must go on. Et là, j'ai joué pendant tout le spectacle. Je clac, clac, des cris, des machins, des palais, des hockey, des cris de spectateurs. Pendant tout le spectacle. Et les 100 personnes qui étaient venues agglutiner autour de la scène avec une espèce de bienveillance incroyable sont rentrées dans le spectacle, on rit, on réagit et en fait c'était trop beau et j'étais content de ne pas avoir annulé, tu vois.
C'est beau.
Mais c'est-à-dire que cette capacité d'abstraction.
C'était une catastrophe annoncée.
Ouais.
Et pourtant ils ont réussi à faire abstraction, comme tu dis, de toute cette ambiance et tout. Waouh.
Au final c'était une belle représentation. Alors où t'as des moments de solitude.
Est-ce que t'en as joué, en fait, pendant le spectacle?
Un peu, ouais. J'ai fait des blagues sur le fait qu'il y avait du bruit, tout ça. Je me souviens plus exactement, mais j'ai fait des petites improvisations hockey sur glace, quand même. C'était tellement imposant que, pas du stand-up.
Mais là, ça aurait été ça aurait été un refus d'obstacle, en fait.
Ouais, exactement. Parfois, tu fais abstraction d'un truc, et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que tu peux pas ne pas le prendre en compte.
Bah, en fait,
ça détend tout le monde. Tu dis, je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y a un match de hockey au-dessus de ma tête.
Voilà, tu parles.
Mais allons-y quand même. Hein, on y va tous ensemble.
Ouais, voilà. Comme ils disent, genre address the elephant in the room, tu vois. Genre, si t'en parles pas, les gens vont dire, mais il y a un éléphant là. Pourquoi t'en parles pas? Vas-y, parle. Ouais,
exactement.
On le voit tous là. Ah oui, ça va créer un malaise et les gens ne vont plus te suivre. Après, ils vont se dire, non, ils refusent. Non. Alors que si t'en parles, c'est il a crevé l'abcès. Voilà. Donc
J'ai appris à faire ça. J'ai appris ça. J'ai mis un peu de temps .
Mais il faut savoir, malheureusement, jouer avec ce qu'il y a autour de nous, tu vois, dans l'environnement et tout, parce que les gens ne sont pas dupes, les gens voient qu'en plus, c'est-à-dire, ça te perturbe ou quoi, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a forcément une petite perturbation, donc vraiment, les gens, ils s'attendent à ce que t'en parles et ils veulent voir ce que tu vas en faire. On parlait d'improvisation tout à l'heure. Les gens, ils aiment bien voir ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas être capable d'en tirer quelque chose, même une vanne, pas terrible, mais comme c'est une vanne, sur le moment, ils se disent, elle est magnifique parce qu'il vient de l'inventer. Tu vois, ils vont préférer rire à une blague pas terrible, mais inventée sur le moment, qu'un texte parfait, ciselé que tu joues depuis 10 ans. Tu vois.
Ouais.
Donc je comprends, mais voilà, est-ce que t'as réussi à caler ta meilleure blague avec un but, c'est-à-dire au moment où ils ont marqué, histoire que le public fasse ouais, tu vois. Est-ce que t'as réussi à caler le timing ou pas?
Franchement, je me souviens pas du détail. Non, puis comme je te disais, moi c'est pas vraiment des blagues, c'est quand même vraiment des situations, des personnages. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'ils sont rentrés dans l'histoire quand même.
C'est beau, franchement. Là, eux, tu vois, ils ont eu le respect pour toi que la directrice adjointe là n'a pas eu pour toi à Béziers.
Ah, clairement.
Franchement. Clairement. Mais c'est beau. Sans déconner, vraiment, si les gens étaient là, je les applaudirais. On les salue s'ils nous écoutent. Ouais. Mais waouh, quoi. Être capable de faire abstraction d'un match de hockey. J'y étais l'autre jour. Hein. J'ai des amis à Anglette, l'équipe d'Anglette. je les salue. Hein, c'est Lormadi. On a joué pour eux, mais pas en dessous de la patinoire. Nous, on a joué un peu plus loin dans une salle et tout, qui appartient un peu au club et tout ça. Et là, vraiment, j'ai vu l'ambiance du match et je peux te dire que je me verrais pas jouer en dessous. Avec tout le bruit et tout, ça gueule de partout. Et puis ça, t'as vu comme c'est violent, c'est vraiment. Mais vraiment, respect à toi, hein. T'as réussi à gérer ça. Waouh!
Oui, et puis dans le même genre, dans le genre perturbation sonore, il y avait l'anecdote sur Kenji Girac. Et ça, c'est fou aussi. Pareil, on a failli annuler. En fait, je joue dans le petit théâtre de Papeete à Tahiti. Donc ça, chance extraordinaire d'aller jouer à Tahiti, ça, c'est merveilleux. Mm-hmm. Mais je joue 6 soirs, je crois. Et un des soirs, il y a en même temps le concert en plein air de Kenji Girac, mais qui n'est pas à 200 mètres. Qui est à 50 mètres. Concert en plein air de Kenji Girac.
Personne n'y a pensé, en fait, que ça allait...
Ils y ont pensé, mais ils n'ont pas su, si tu veux. Et puis bon, évidemment que ce serait à moi d'annuler. mais il y a des réservations, c'est important pour le théâtre, les raisins, cette date en plus, parce que bon, tu vois, ils nous font venir de métropole pour. Donc cette date est importante. François, est-ce que tu veux pas quand même y aller, tout ça? Et je dis bon, allez, je crois que je pense à la patinoire. Je me dis, j'ai fait la patinoire, je peux faire concert de Kenji Girac. Mon gars, c'était fou. C'est-à-dire que vraiment, on était au concert. Mais pareil, les gens, ils sont rentrés dans le spectacle, ils ont suivi, ils ont ri. Peut-être pas les gens qui étaient au fond du théâtre, ils devaient quand même un peu galérer.
Ouais.
Mais la musique nous parvenait parfaitement. Et moi, qui connaissais pas bien Kenji Girac, je connaissais quand même quelques tubes. Dans ma tête, à un moment donné, dans une scène, je me chantais Thiago, le temps de. Tu sais, je me la chantais comme un fan.
Impossible de te concentrer sur ton texte, en fait.
Moi, j'arrivais, tu vois, j'étais un peu en pilote automatique. Tu vois comment c'est quand tu
oui,
joues
pilote parfois, automatique.
Tu te mets en pilote automatique parce que t'as une perturbation. C'est pas agréable d'être en pilote automatique, mais tu sais que t'es en urgence. Là, tu peux rester en pilote pendant un temps. J'avais des moments comme ça où j'étais en pilote et j'entendais la chanson et il y avait une partie de mon cerveau qui dansait, qui chantait avec Kenji Girac. Et en même temps, je racontais mon histoire et j'avais les réactions au bon moment. Toi, ça se déroule bien.
Ce qui serait trop marrant, ce serait qu'en ce moment même, Kenji soit dans un autre podcast à dire j'ai joué à Tahiti et j'entendais le spectacle de François de Brouwer, tu vois, qui jouait en même temps et dans ma tête, je chantais en pilote automatique et tu vois. Oh là là.
On a fait pas mal de blagues comme ça à l'époque en disant. En disant qu'on allait faire de la. On allait faire. J'allais hurler pour faire chier Kenji.
Oh là là là.
Mais ouais.
Ah, faut faire gaffe à pas s'embrouiller dans le texte. Hein. Tu sais, t'es dans un moment émotion et tu regardes la meuf et tu fais. Toi, ma belle Andalouse. Tu vois. Non, non, non. C'est pas ça le texte, François. C'est pas ça. Ah non, mais. Respect. Franchement, respect.
Ouais, c'était
Quelle galère.
C'était
Parce qu'en plus, ça aurait été bien l'inverse. C'est-à-dire que lui soit dans une salle et toi en plein air.
Ouais,
Parce
que
toi en plein air, tu vas pas faire autant de bruit que lui.
Ouais.
Lui en plein air, le son se diffusait dans tout Tahiti, tu vois.
Bah oui, oui.
Et toi, t'étais dans
mais
une salle fermée.
On va pas se mentir, on n'avait pas la même jauge.
J'avoue. Kenji Girac, quoi, ouais, c'est sûr. Là, on l'entend moins, un peu moins, en ce moment. Je sais pas où ce qu'il en est. Bon. En tout cas, il a eu grosse période de star et tout, vraiment. Ouais. Et on respecte son travail, mais lui, en plus, lui, il en sait rien, en fait. Il sait même pas qu'il a gâché, peut-être. Enfin. Il a mis en difficulté un spectacle, quoi.
Il n'en sait rien du tout.
Ah, ça, c'est dommage que vous n'ayez pas pu, genre, vous arranger, tu sais, du style, bon, bah, vous finissez à telle heure, nous, on enchaîne après.
C'est exactement ce que je voulais faire, ouais. Je ne sais plus pourquoi ça, on n'a pas réussi.
D'accord, bon, c'est dommage.
C'est un truc de réservation, la salle était. Voilà, les gens avaient réservé.
Ouais, quand les gens ont déjà réservé,
ça leur coûte beaucoup d'argent.
Ouais.
Ils ne veulent pas perdre 200 places, quoi. Et donc, voilà.
Je comprends.
Mais on l'a fait, ça a tenu.
Ouais, écoute, franchement, félicitations, bravo à toi. Hein. Ouais. Donc, dans les anecdotes, tu m'as parlé d'un truc sous l'orage.
Chapiteau sous l'orage. Ah bah, c'est marrant. Alors là, pour le coup, on s'est interrompu. Je joue sous un chapiteau pour un petit festival d'été. Très sympa, petit festival, il y a plein de monde. La présentation commence et là, orage énorme.
Oh.
Et donc, évidemment, la pluie. Sur le chapiteau, ça fait un boucan du diable. Et il y avait des micros qui étaient avant scène, mais que j'avais soupçonné de marcher moyennement, tu vois, pendant les raccords.
Ouais, ouais.
Ils disaient, ça n'a pas l'air hyper fiable, leur micro. Et je joue sous l'orage, pareil, pilote automatique, j'essaie de jauger le public, je continue à jouer, en même temps, je me dis, et je sens qu'ils réagissent plus, quoi. Plus du tout, tu vois, au moment où d'habitude ils réagissent, je me dis, il y a un problème.
Il
y a vraiment,
quoi.
À un moment donné, je dis, vous entendez rien de ce que je dis. Et là, j'ai vraiment tout le public qui était poli depuis une demi-heure qui fait non.
Oh, les pauvres. Oh, les pauvres.
Alors, du coup, on s'est arrêté et j'ai joué le lendemain. Je suis resté un jour de plus et finalement, on a fait la représentation le lendemain sous un soleil de plomb, chaleur dans le chapiteau. Et c'était hyper sympa, mais il se trouve que c'était, tu vois, des gens du village. Ça posait pas de problème. Les gens pouvaient venir le lendemain.
Oui,
ils étaient
en
vacances. Tu vois.
Je comprends. Ah oui, heureusement. Hein.
Ouais.
Et heureusement que tu t'en es rendu compte. Parce que des fois, tu sais, moi, je crois que c'était les Blonde and Blonde and Blonde que j'ai eu dans le podcast, j'en profite pour les saluer, qui m'ont raconté qu'à la fin de leur spectacle, ils se sont rendus compte, en fait, que personne réagissait ni rien. Il y avait un problème de branchement ou je sais pas quoi, donc il n'y avait pas de son. Ils chantaient dans le vide, en fait, pour le premier rang, peut-être. Et ils ont dit au régisseur, mais pourquoi tu ne nous as pas prévenu? Et il leur a dit, genre, je voulais pas vous déranger.
Ouais,
c'est quand même balèze, tu vois. Donc là, au moins, tu t'en es rendu compte.
Oui, parce que
avant.
C'est marrant. Il y a ce truc. C'est marrant, ce moment où tu décides de dénoncer un problème.
Ouais.
Tu sais, parce qu'il y a un truc. C'est très beau en même temps. Il y a un truc un peu sacré qui se crée avec le public. On se dit, on va suivre une histoire. On va rentrer dedans. On va rentrer dans un univers. Et le moment où tu brises le truc,
C'est comme
surtout
si tu montrais,
surtout quand c'est pas du stand-up et que t'es pas dans les yeux, dans les yeux avec les spectateurs. Le moment où tu brises le truc parce que t'es dans une histoire et tu dis bon, on est d'accord, on va s'arrêter là parce que il y a un gros problème. Il y a un malaise, il y a machin. Ça m'est arrivé aussi des malaises dans le public et tout. Malaise dans le public, où tu t'arrêtes, la personne est évacuée. Et tu dis bon bah je repars quelques répliques en avant. Et ce qui est fou, c'est qu'on repart. C'est que comme tu dis, l'éléphant a été nommé.
T'étais obligé là. Je comprends. Oh là là.
Bon ouais voilà, on a joué le lendemain.
Non mais très bien, c'est bien. Et puis c'est bien que t'aies perdu personne en chemin quoi. Tu vois, les gens auraient pu te dire ah non moi demain je reviens pas, désolé je peux pas et tout machin. Les gens, vous avez pas perdu de monde entre les deux représentations.
Non franchement non, c'était plein aussi bon, le lendemain. Et
c'était au bout de combien de temps à peu près ça dans le spectacle?
Franchement l'orage a commencé au début du spectacle. Tu vois vraiment, la pluie a commencé à tomber dans les premières répliques.
D'accord.
Et je sais pas, au bout d'un quart d'heure.
Ah alors
en fait,
ça va.
Évidemment dans ta tête tu te dis peut-être la pluie va s'arrêter, machin. Bon, ils ont perdu quelques répliques, machin. Mais en fait, au bout d'un moment, tu sens qu'il n'y a pas de réaction.
Ah oui.
Tu dis, bon, ils n'entendent pas.
C'est ça.
Vous entendez?
Non. Mais c'est adorable, alors. Et heureusement que ça s'est passé au bout d'un quart d'heure. Parce que si tu avais arrêté, par exemple, si tu avais fait une heure, ça aurait été plus compliqué, je pense, de revenir le lendemain et de refaire ça, tu vois. Alors que là, un quart d'heure, ils n'avaient rien raté.
Oui, c'est vrai, t'as raison.
Ils n'avaient rien raté, ça va. Ah oui, oui, ouais. Ben, quand même, hein, oui. Bon, respect. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme titre intéressant? C'était génial. Tu sais, t'es le premier invité qui me fait des titres comme ça.
J'aime bien les titres, moi, c'est comme les scènes quand j'écris. Moi, j'aime bien les titres. Les deux projos à la gare. Bon, ça, c'est rapide. Les deux projos à la gare, c'est qu'un jour, je vais pour une date de tournée et je vois mon régisseur arriver avec deux projos, un sous chaque bras. Mais des gros projos, lourds. Je me dis, mais du fait. Il me dit, en fait, on va dans une salle où il y a tellement peu de projos que je suis obligé de les emmener. Oh. Et là, j'ai dit, ça, c'est terminé. Moi, j'avais déjà des déclics de salle où ça n'allait pas. Mais en fait, le fait de voir mon régisseur se faire chier à trimballer deux projos dans le train, je me suis dit, non, c'est plus possible. Donc, à partir de là, je me souviens, j'ai dit, maintenant, on vérifie toujours la capacité technique des lieux, ce qui fait un petit écrémage déjà.
Bien sûr. Normalement, tu envoies une fiche technique. Et ils te garantissent qu'il y a tout. Normalement, c'est comme ça. Mais je comprends. Ok. Belle galère.
Jouer avec la gastro, ça t'a fait rien?
Ah, ça, bah oui, attends. Ça, mais qui ne l'a pas fait? Ah, tout le monde.
Bah oui, c'est vrai.
Je crois qu'on l'a tous fait. Et il y a un truc, tu vas me dire si t'as eu ça ou pas. Il y a, ce qu'on appelle la santé scénique. C'est-à-dire que pendant que t'es sur scène, il ne peut rien se passer.
Ça, je suis pas complètement d'accord avec ça.
Ah d'accord, ok. Parce que moi, je l'ai vécu comme ça. Grippe, gastro et tout. Sur scène, c'est parfait. Je quitte la scène, je reprends tous les symptômes. Toi, t'as pas eu ça.
C'est marrant parce que je sais pas comment dire. Je suis un peu sceptique avec cette théorie-là. Enfin, c'est vrai qu'il y a un phénomène qui se passe où tu trouves une énergie parfois insoupçonnée, mais quand même, quand t'es mal, les symptômes ils te poursuivent et tu luttes contre. Et quand t'es vraiment mal,
d'accord.
Et genre une gastro, c'est-à-dire que t'as pas pu bouffer de la journée, t'es mal, t'as vomi, t'es allé au chiottes, t'es vraiment dans un état fiévreux et tout ça. C'est vraiment dur. En gros, je suis au lit. Après, tu me raconteras la tienne. Je suis au lit toute l'après-midi. Franchement, j'arrive pas à me lever. Donc, j'appelle le directeur, Jean, le directeur du Petit Saint-Martin, qui est hyper sympa. Je lui dis, c'est vraiment le moment où le spectacle au Petit Saint-Martin, il cartonne. Ah. Je suis passé dans le quotidien. Ils ont vendu 1000 places en 24 heures.
Wow.
Et c'est le moment où c'est blindé. Il faut pas se rater. C'est que des payants. C'est quand même un enjeu financier pour tout le monde. Et ça. Donc, j'appelle Jean. Je dis, je suis désolé, Jean. Je te jure, je fais jamais ça. J'ai jamais fait ça, mais je peux pas jouer. Je n'arrive pas à sortir de mon lit, je n'arrive pas à manger une cuillère de riz blanc. C'est la vraie gastro. Il me dit, t'es sûr. Essaye de venir quand même. C'est plein ce soir, tout ça. Jean connaît bien Vincent de Dienne et moi, je connais Vincent. Et là, je reçois un texto de Vincent qui m'envoie la liste des trucs à faire, qui a joué avec la gastro, je ne sais plus où, et qui a fait 3 dates avec la gastro, qui m'envoie la liste des trucs à faire pour jouer avec la gastro.
Waouh.
Trop mignon.
Un mode d'emploi, quoi.
Et là... pris, tu vois, par amitié pour Jean, le directeur, motivé par Vincent, tout ça, je me dis, allez, j'y vais. Et en gros, dans son mot, il me dit vraiment de faire une chose après l'autre, tu vois. Donc, commencer par s'habiller, prendre sa douche, machin. Et vraiment, je me concentre sur une chose après l'autre. Donc, j'arrive au théâtre, comme ça, dans cet état. Et il m'a dit un truc qui était très beau. Il me dit, rentre sur scène comme dans ton lit. Le début de la loi des prodiges, en fait, je commençais, je jouais une femme qui accouche, donc je démarrais assis comme ça, en faisant semblant d'être allongé. Et je me suis vraiment figuré, au moment où j'ai fait ça, au tout début du spectacle, que je prenais une couette, et que je la remontais comme ça jusqu'en haut.
Wow.
Et je me suis dit, tu vas inviter les gens dans ton lit, quel que soit l'état. Et ben, franchement, les retours étaient similaires à d'habitude. Les gens voyaient pas, j'ai failli m'arrêter 10 fois,
wow.
Parce que j'étais dans un état de fatigue et de je suais à grosses gouttes, tout ça. Et en plus, ce jour-là, il y avait un copain journaliste qui faisait des chroniques dans Pop 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 et tout ça, qui a fait une super belle chronique après avoir vu le spectacle. Lui, il le sait même pas, je pense que j'avais la gastro, il le sait toujours pas aujourd'hui. Mais j'avais une, tu vois, vraiment la gastro, quoi. Et en fait, on s'en sort. T'as raison, mais quand même, c'était pas...
Ouais, c'était pas le meilleur spectacle de ta vie.
Je sais pas comment ton expression là, sur... la santé
oui, la santé scénique.
La santé scénique, non, j'étais pas en pleine santé scénique.
D'accord, ben, je comprends. En fait, ben, très souvent, alors oui, je pense que la gastro, là, t'étais vraiment au dernier stade de la gastro,
ouais,
tu vois.
Ouais.
Mais je pense que ça marche plus, on va dire, pour les grippes ou les trucs comme ça.
Oui.
Après, moi, la gastro, je sais que, par exemple, enfin, même sans parler de gastro, des fois, genre, je suis rentré sur scène, comme beaucoup d'humoristes, tu sais, genre, juste avant, genre, j'ai envie d'aller aux toilettes, mais vraiment, ça me prend, voilà, pour la grosse commission en plus. Et j'ai pas le temps parce qu'on va monter sur scène, quoi.
Ouais.
Donc bah je dis rien et je monte sur scène et je fais mon spectacle pendant une heure et demie ou tu vois une heure et quart ou quoi, et en fait non, ça se voit pas, donc moi c'est bon, j'oublie. Par contre, dès que je sors de scène, ça me reprend.
Mais parce qu'il y a aussi, je pense, beaucoup de symptômes qui sont liés au trac. C'est-à-dire que moi, je sais pas si t'es comme ça, mais moi ça me fait ça.
Ouais.
C'est-à-dire que t'as des symptômes de malaise.
Mm-hmm.
Tu dis j'ai bouffé un truc qui passe pas, ou j'ai une petite fièvre, tout ça. Mais en fait, c'est des trucs psychosomatiques qui sont liés à ton appréhension de jeu. Et en fait, c'est vrai, une fois que t'as lancé les hostilités, que t'as les premières réactions, en fait, c'est le trac qui disparaît avec les symptômes.
C'est vrai,
on confond un peu la maladie et...
Bah, en l'occurrence, moi, ça me le fait quand je fais des nouveaux trucs.
Ouais.
Bah là, par exemple, cet après-midi, je risque d'avoir un petit épisode. Ça risque d'arriver. Ça risque. Mais en tout cas, voilà, hein, c'est le stress et tout ça. Mais moi, ça m'est arrivé une fois. Alors, gastro, j'ai déjà dû avoir, j'ai pas de souvenir précis, mais en tout cas, je me rappelle d'une grippe carabinée. Ah mais vraiment j'étais vraiment j'aurais pas quitté mon lit en temps normal, mais là fallait que je joue à côté de Bourges et je vais là-bas et tout dans un endroit très sympathique, les gens étaient adorables et tout, et j'arrive et tout le long du trajet je suis là genre tu vois je crève quoi, j'arrive sur scène, bonsoir tout le monde, et pendant tout le spectacle à l'époque je pense qu'il faisait encore 1h40 peut-être, mais bref en tout cas il faisait au moins 1h15 ça c'est sûr, et pendant tout le spectacle j'ai dû avoir une fois où en rigolant un peu, parce que je parlais avec les gens et tout, en rigolant à une réaction de quelqu'un ou à une réponse de quelqu'un, j'ai ri et ça a enclenché une petite quinte de tout, mais toute petite, tu vois, genre vraiment j'ai fait... Donc je vous disais, et après je suis revenu dans mon texte. Et je termine le spectacle, je me dis « Waouh, je suis plus malade en fait !» Je sors, je dis aux gens merci beaucoup, on se retrouve à côté et tout. Les gens viennent me voir, ils me font merci beaucoup, c'était super et tout. Je leur dis merci beaucoup. J'ai tout récupéré, tous les symptômes. Pendant le temps du spectacle, ça s'était arrêté et là, j'avais tout récupéré. J'ai vécu ça, mais je pense que oui, à partir d'un certain niveau, là, il n'y a plus de santé scénique, là. Là, il n'y a plus rien.
Ce que tu racontes, ça me fait penser à... Pour le coup, ce n'est pas une anecdote en solo. Je jouais la Locandira, un spectacle qu'on a beaucoup tourné avec Dominique Blandre et Marcon. Et il y avait un acteur qui a fait une indigestion aux huîtres. Et le gars, c'est vraiment, tu sais, c'était vraiment le type dans la troupe, super bon camarade, qui est toujours présent pour les autres, qui vraiment te demande toujours si ça va, tout va bien et tout ça. Il avait bouffé une huître qui était pas passée, il le savait pas. Et vraiment, 5 minutes avant de rentrer en scène, il commençait le spectacle, il tombait dans les vapes.
Ah oui.
5 minutes avant de démarrer le spectacle, il dit, ça va vous? Ça va? Tout le monde va bien? Et boum!
Oh là là!
Il s'écroule, il devient blême, il s'écroule. Et en fait, il était tellement mal et tellement en déni de son mal, parce que c'est ça aussi, t'approches du moment où tu vas jouer, forcément tu fais un peu de déni sur un potentiel mal-être.
Ouais,
tu dis, j'ai pas le droit d'être mal là. Et donc, ce déni a fait une espèce de déconnexion. Tu vois qu'il y a quand même des moments où ton corps, il peut pas. Et il a quand même réussi à jouer en souffrance, tu vois, et puis en effet, juste après il est rentré, il était dans un état pas possible.
Oh. Ah, mais le corps dit stop à un moment,
ouais,
ça c'est
sûr.
Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qu'on avait d'autre alors dans la liste?
Attends, qu'est-ce que j'avais d'autre? Panne de régie Avignon, bon ça c'est plus classique. Voilà. Ah, je vais te raconter la salle de l'horloge.
Oui.
Non mais parce que là c'est vraiment, je sais pas comment dire. J'ai appelé mon pote éclairagiste François Menou qui fait les lumières de mes spectacles. Qui est un éclairagiste si tu veux, c'est un gars hyper maniéré, il parle comme ça. Hein. Et si tu veux, il est ultra costaud dans son métier. Il fait les lumières d'opéra en plein air, ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire?
Ah oui, donc,
tu vois, c'est un gars.
Professionnel.
Il fait des lumières. Il sait qu'il veut faire des lumières depuis qu'il a 8 ans et demi. C'est vraiment son truc. C'est un petit génie, quoi. Et là, on débarque dans une salle, mon gars. Mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est vraiment. C'est une grange. Et c'est un ancien bar. Il y a 3 chaises, 3 tables. Il y a une scène pourrie. Il y a vraiment les rideaux, des trous partout. Quelques affiches. De trucs avec de titres de spectacles avec des jeux de mots effroyables. Tu te dis, on est où? Et là, on est accueilli par une famille qui s'occupe de ce lieu. mais tu sens que c'est la corvée, quoi. Et on est reçu par cette famille, et en fait, on s'est acharné avec les quatre projos qu'on avait, avec trois bouts de ficelle et machin, pour vraiment essayer de maintenir une exigence artistique, avoir un peu des lumières. Et mon camarade François Menoux, il est extraordinaire pour ça. Il débarque dans ce lieu-là, il se démonte pas, il se dit pas, c'est un scandale, il est pas snob, il y va. Mais eux, ils nous ont pris pour des fous. Ils nous ont pris pour des snobs, justement, qui se prennent la tête. Alors que nous, on voulait juste essayer de rendre le spectacle le mieux possible. Je vais me changer. La loge, c'était leur cuisine. Donc, eux, je suis en train de me changer, ils bouffent. Poulet frites avec le chien et tout qui passe. Le chien qui vient me voir pendant que je me change. Et le gars qui me fait « Ah, t'es pas très marrant pour un humoriste !» et tout. Moi, je lui explique gentiment. Je lui dis « Vous savez, là, je vais jouer pendant 1h45. Alors, avant, j'aime bien être un peu dans le silence. »« Ah ouais, d'accord, ah ouais, ok. » ils sont là avec le clébard et tout ça. Mais pas méchant, tu vois. Mais une réalité où tu dis « C'est fou. » Tu penses « J'ai fait 3 ans de conservatoire. J'ai joué dans tous les lieux. » Et bon, bref. Enfin, tu penses pas à ça sur le moment, mais tu te dis « C'est fou ce qui m'arrive. » On fait la représentation. Assez peu de monde, assez peu de réactions, un peu comme on s'attendait. Et là, ce qui est assez beau, c'est que le père de famille, il vient me voir après, il fait « Je te jure, plein d'émotions, il fait « C'est fou ton spectacle, c'est fou, je les connais tous ces gens, je les ai vus, je les ai reconnus, c'est fou les personnages que tu fais. » En fait, il était ultra ému du spectacle.
Wow.
La moitié de sa famille n'était pas venue. La moitié de sa famille était partie avant, après le déjeuner, en disant oh, « Vous savez, moi, c'est pas mon truc, le théâtre et tout. » Et tu te dis « C'est fou. »
Mais lui, t'as réussi à le conquérir.
Et lui, il était ultra ému. Et je peux te dire que c'est une victoire, ça.
Ah, mais c'est ça.
C'est
vraiment t'as réussi à percer la carapace des bidochons.
Ouais.
C'est incroyable. Waouh. Mais ça, j'aime bien. Moi, c'est vraiment, tu vois, comme t'as dit, c'est une victoire parce que les gens partent avec un a priori et ils viennent te voir à la fin en disant, c'est pas du tout ce que je pensais et vraiment, vous m'avez conquis, quoi. Et ouais. Ça fait plaisir, tu vois.
Et puis surtout, plus qu'ils partent avec un a priori, c'est qu'ils affichent leur a priori toute la journée. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que mon éclairagiste pour eux c'était vraiment ultra snob et tout ça, moi j'étais l'artiste snob prise de tête qui veut du silence et de la concentration,
genre
et 32 ans, tu vois, pourquoi tu te fais chier là, avec ton projo, et toi pourquoi tu nous fais pas une blague,
ouais, c'était
ça.
Un peu trop la bande franquette, quoi.
Ah, c'était ultra la bande franquette. Et puis qu'à la fin le gars il soit hyper ému et tout ça, tu te dis bon, on l'a pas fait pour rien, mais je le referai pas. Je suis désolé.
Il n'y a pas eu de rappel?
J'y retournerai pas.
D'accord, mais en tout cas, au moins, t'es reparti victorieux d'un endroit qui était vraiment pas
prévu. Et surtout, pour ça. La victoire, c'est se le raconter après. Hier, j'ai eu au téléphone mon éclairagiste. On a rigolé, on se rappelle tous ces détails. On a vraiment rigolé, donc c'est ça, la victoire, elle est là, quoi.
Absolument. Moi, c'est ce que j'aime avec les histoires. C'est d'ailleurs une des raisons qui font que j'ai lancé ce podcast. C'est que j'aime bien qu'on rie de ce qui nous a fait souffrir à la base. Pour moi, c'est une victoire de transformer nos galères en rire. Je veux qu'on en rie ensemble. Moi, le premier, tu vois, le coup que je t'ai dit où j'avais vraiment des douleurs et tout, quand je suis sorti de scène, je voulais crever, mais vraiment, j'avais mal. Et je me suis dit, c'est le pire spectacle de ma vie. Parce que souvent, les gens me demandent, c'est quoi ta pire scène? Bah là, je venais de la vivre, tu vois. J'en avais une déjà. J'en avais une que je racontais aux gens. En gros, je te le fais en 2 secondes. J'avais joué à Avignon, en dehors du festival, ouais. Dans une petite salle. J'avais 11 personnes, 5 couples et un monsieur seul, dans une salle de 50. Et ils se sont écartés de partout. Ils étaient éparpillés comme pas possible. L'ambiance était nulle, complète. Je les voyais rire, mais ils riaient dans leur coin. Donc, vraiment, ambiance très, très compliquée. Pour moi, c'était ma pire scène. Mais là, celle de l'autre jour, là, elle l'a surpassée. C'est bon, j'ai le top 1 maintenant, je sais. Et donc, la première chose que j'ai envie de faire après ça, donc c'est vraiment de crier tellement j'ai souffert et tout, je suis pas bien. Mais, allez, on va dire, quelques minutes plus tard, ça sera dans le podcast. Ouais. Tu vois, voilà, c'est ça, en fait. Et c'est trop bien. C'est ce qui fait qu'on transforme nos galères en victoire, en rigolade et tout. C'est trop bien. Moi, j'aime ça. J'aime vraiment le partage et tout. Je te remercie pour ces belles anecdotes. C'était vraiment génial. Merci à toi pour cette générosité. T'es aussi généreux dans le podcast que sur scène. Ça fait plaisir. Donc, vraiment, je vais pas jusqu'à te souhaiter des nouvelles galères. Parce que ça, non, c'est pas le but. Je souhaite vraiment que ta carrière soit au top et que t'aies des scènes et des spectacles et encore des spectacles et des spectacles qu'on viendra voir, on viendra t'applaudir et tout avec grand plaisir. J'ai hâte de découvrir cet illuminé d'ailleurs,
ouais.
Vraiment. Et donc, écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux?
Ben, je suis sur Instagram et Facebook. Et j'ai aussi sur YouTube, j'ai une chaîne et j'ai le premier spectacle à l'Eau des Prodiges, il est gratuit sur YouTube.
Génial! D'accord, ben, je mettrai les liens. Ouais. Avec grand plaisir. Tu es sur Twitter aussi ou?
Ah non, pas sur Twitter.
D'accord, pas de souci. Ben, écoute, je mettrai les liens vers Facebook, YouTube et Instagram. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.